Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro au sommaire de cette édition du vendredi 13 septembre 2024. En RDC, 37 prévenus ont été condamnés à mort dans le procès de la tentative de coup d'État. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa signe un projet de loi controversé sur l'éducation mettant à l'épreuve la coalition gouvernementale. En Tanzanie, la police interdit de manifester. L'opposition conteste cette décision et maintient son projet de descendre dans la rue le 23 septembre. Le président sénégalais fixe les élections législatives au 17 novembre.
Les marchands ambulants attendent, les conducteurs de Jakarta attendent. Il y a eu beaucoup de licenciements après la circulaire du Premier ministre sur la rationalisation des dépenses publiques. Est-ce que cette bombe sociale et ces balbutiements vont se matérialiser dans les urnes? On attendra.
Papa Lyonsa, rédacteur en chef de e-radio, nous expliquera dans la partie magazine les perspectives politiques au Sénégal. Ici aux États-Unis, Joe Biden reçoit le premier ministre britannique Starmer pour discuter des missiles longue portée pour l'Ukraine. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. En République démocratique du Congo, 37 prévenus, dont 3 Américains, ont été condamnés ce vendredi à la peine de mort par un tribunal militaire de Kinshasa au procès de la tentative de coup d'État que l'armée a dit avoir déjoué en main. Le procès se tient depuis le mois de juin. Parmi les 37 condamnés à mort, 6 sont de nationalité étrangère. 3 Américains, je l'ai dit, nés aux États-Unis, ainsi qu'un Belge, un Britannique et un Canadien. Tous les 3 sont des Congolais naturalisés. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a promulgué une loi sur l'éducation qui fracture le gouvernement d'unité nationale. Les précisions de Yacouba Ouédraogo.
L'Alliance démocratique, qui est le principal partenaire de l'ANC au sein du gouvernement d'union, s'oppose aux articles 4 et 5 de cette loi qui soumettent désormais à approbation du gouvernement les règles d'admission et la langue d'enseignement de chaque établissement. Jusqu'ici, c'était le conseil de direction où siègent parents d'élèves et professeurs qui en décidaient. La minorité africaine craint pour les écoles qui enseignent l'Afrikaans, une langue dérivée du néerlandais. John Steenhuisen, patron de l'Alliance démocratique, avait appelé le président Cyril Ramaphosa à ne pas promulguer cette loi. Il n'exclut pas que son parti quitte le gouvernement d'union, ce qui priverait le chef de l'État de majorité parlementaire. M. Ramaphosa a expliqué que la loi vise à garantir l'uniformité et l'équité des normes éducatives dans toutes les écoles. Il dit avoir retardé de 3 mois l'entrée en vigueur des articles contestés pour donner le temps aux partis de discuter. M. Steenhuisen a annoncé que la DIE va contester cette loi sur l'éducation devant la justice.
L'ancien président du Botswana, Ian Khama, sous le coup d'un mandat d'arrêt, est revenu pour la première fois depuis 3 ans dans son pays aujourd'hui. Un retour surprise à l'approche des élections générales prévues en octobre. Ian Khama, qui s'était exilé en Afrique du Sud en novembre 2021, a fait une apparition surprise devant un tribunal de Gaborone qu'il a inculpé en avril 2022 de plusieurs infractions, dont la possession illégale d'armes à feu, pour réclamer d'être maintenu en liberté avant son procès, ce que le juge lui a accordé. Le président des Comores, Azali Assoumani, a été légèrement blessé par arme blanche ce vendredi. La porte-parole du gouvernement a confirmé que le chef de l'État était hors de danger après un attentat. Une autre source proche de la présidence a ajouté que ses blessures sont sans gravité et que l'agresseur a été arrêté. En Tanzanie, la police a interdit ce vendredi au principal parti d'opposition Chadema d'organiser des manifestations contre les disparitions de plusieurs de ses membres. Les autorités menacent de poursuivre ceux qui vont violer cette interdiction. Nani Talani.
Les manifestations de Chadema sont interdites, a déclaré le porte-parole de la police, David Missimé. Il a prévenu que la police va s'occuper de quiconque va violer cet ordre. Freeman Mbowe, le chef du parti Chadema, a appelé à descendre dans les rues de Dar es Salaam le 23 septembre pour protéger et revendiquer les droits de ses concitoyens qui disparaissent ou reparaissent vivants ou morts. Chadema accuse les autorités de meurtre et d'enlèvement, notamment celui de l'un de ses secrétaires, Mohamed Ali Kibao, retrouvé mort samedi. Il a évoqué les cas de 5 responsables du parti récemment portés disparus. L'un d'eux a réapparu des semaines plus tard, après sa disparition, devant un tribunal qui a refusé une libération sous caution. Le chef de l'État Samia Suluhu Hassan a demandé un rapport détaillé sur cet incident qu'elle qualifie d'extrêmement grave. Elle a ajouté que chaque citoyen a le droit de vivre et que le gouvernement qu'elle dirige ne va pas tolérer de tels actes de cruauté.
Le principal parti d'opposition du Ghana a accusé aujourd'hui la commission électorale d'avoir modifié les listes électorales en vue de la présidentielle prévue en décembre. Le NDC accuse la commission électorale d'avoir, avec l'accord du nouveau parti patriotique au pouvoir, falsifié le registre électoral en écartant certains électeurs des listes et en incluant plus de 50 000 noms de personnes décédées. Au Burkina Faso, un collectif de proches de victimes du massacre commis par des djihadistes fin août à Barcelogo a dénoncé le mépris du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, et pointé sa responsabilité. Cette attaque perpétrée le 24 août est la plus sanglante, du moins, du Burkina Faso que le pays ait connu dans son histoire. Aucun bilan officiel n'a été communiqué, mais le collectif Justice pour Barcelogo, composé de proches de victimes, a fait état de plus de 400 morts.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'Organisation mondiale de la santé a préqualifié le vaccin MVABN destiné à lutter contre l'épidémie de Mpox qui frappe actuellement une partie du continent africain. Le point avec Rosine Monezero.
Cette première préqualification d'un vaccin contre le Mpox est une étape importante dans notre lutte contre la maladie, à la fois dans le contexte des épidémies actuelles en Afrique et à l'avenir, a déclaré dans un communiqué Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. La préqualification de ce sérum par l'OMS permet aux agences spécialisées de l'ONU, comme l'Alliance du vaccin et l'UNICEF, mais aussi des gouvernements, d'accélérer les commandes. Cette décision peut également aider les autorités réglementaires nationales à accélérer les approbations, ce qui, à terme, va augmenter l'accès à des vaccins Mpox de qualité garantie, a ajouté Yukiko Nakatani, sous-directrice générale de l'OMS pour l'accès aux médicaments. La recrudescence du Mpox en Afrique, qui touche la République démocratique du Congo et d'autres pays, ainsi que l'apparition d'un nouveau variant, ont poussé l'OMS à déclencher le 14 août son plus haut degré d'alerte sanitaire mondiale. Plus de 120 pays ont confirmé plus de 100 000 cas de Mpox depuis le début de l'épidémie mondiale en 2022.
La tension est encore montée d'un cran ce vendredi entre Moscou et les alliés occidentaux de l'Ukraine, au moment où les dirigeants américains et britanniques doivent discuter de la possibilité d'autoriser Kiev à utiliser des missiles à longue portée contre la Russie. Jacques Aristide.
Il s'agit de la deuxième visite à Washington du Premier ministre britannique Keir Starmer depuis son arrivée au pouvoir en juillet. Au menu de son tête-à-tête avec le président Joe Biden à la Maison-Blanche aujourd'hui, le Moyen-Orient, mais plus important, un feu vert à l'utilisation de missiles à longue portée des Occidentaux contre la Russie. Pour le président russe Vladimir Poutine, un tel feu vert voudra dire que les pays de l'OTAN sont en guerre contre la Russie et changera la nature même du conflit. Selon des médias britanniques, le président Joe Biden, qui craint un conflit nucléaire, est prêt à autoriser l'Ukraine à déployer des missiles britanniques et français utilisant la technologie américaine, mais pas les missiles américains eux-mêmes. Quant au chancelier allemand Olaf Scholz, il affirme que son pays ne changera rien à sa décision de ne pas livrer à l'Ukraine de missiles longue portée. Dans ce contexte de tension, Moscou a dit avoir retiré l'accréditation de 6 diplomates de l'ambassade britannique en Russie, soupçonnés d'espionnage, des accusations totalement infondées, a répliqué Londres.
La Corée du Nord a publié pour la première fois ce vendredi des images présentées comme celles de ses installations d'enrichissement d'uranium à l'occasion d'une visite de Kim Jong-un qui a appelé à un renforcement des capacités nucléaires du pays. Hier, Séoul a annoncé que la Corée du Nord avait tiré plusieurs missiles balistiques de course portée en direction de la mer, son premier essai d'armement majeur depuis le début juillet. Mais l'agence KCNA a indiqué ce vendredi qu'il s'agissait d'un test d'un nouveau type de lance-roquettes multiples de 600 mm. Le cofondateur du cartel mexicain de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, a plaidé non coupable aujourd'hui de trafic international de drogue lors de sa présentation devant un tribunal fédéral de New York. Ismael Zambada, âgé de 76 ans, est notamment inculpé d'association de malfaiteurs en vue de trafic international de cocaïne et de fentanyl. Il avait accepté il y a une semaine son transfert vers New York depuis le Texas, où il était détenu depuis son arrestation rocambolesque à la fin du mois de juillet. Et le nouveau président irakien a quitté aujourd'hui l'Irak au terme d'une visite officielle symbolique chez un allié et un voisin axé sur le renforcement de la coopération économique. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nani Talani.
La Centrafrique a reçu un don de plus de 41 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour améliorer l'accès aux infrastructures et aux services de base pour environ 1,6 million de personnes. Le projet cible les groupes vulnérables des villes de Bangui et Berbérati, notamment les personnes déplacées, les femmes et les jeunes. L'économie sénégalaise a connu une croissance plus lente que prévue au premier semestre cette année, enregistrant 2,3% selon une équipe du FMI qui a fini une mission dans le pays jeudi. Cette décélération reflète une activité plus faible dans les secteurs des mines, de la construction et agro-industrielle et dans une moindre mesure dans le secteur primaire. Pour terminer, la Banque centrale de Libye, au centre d'une crise qui dure depuis des semaines et qui a fait chuter la production de pétrole, reste coupée du système financier international, a déclaré jeudi son gouverneur, Sadiq Al-Kabir, qui a été démis de ses fonctions par des factions politiques et qui s'est exilé à Istanbul. Toutes les banques et institutions internationales ont suspendu toutes les transactions avec le pays. Par conséquent, il n'y a pas d'accès aux soldes ou aux dépôts en dehors de la Libye, a déclaré Sadiq Al-Kabir.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Début ce vendredi du deuxième tour préliminaire des compétitions interclubs de la CAF.
Oui, en Ligue des Champions, Sagrada de l'Angola a perdu 1-0 face au Nigérian Dénoungou. Les Tunisiens de Monastir accueillent les Algériens de MC Alger. En Coupe CAF, le stade malien de Bamako sera reçu par Painesville du Libéria demain samedi à Monrovia. Pour le coach du stade malien de Bamako, Mamoutou Kané Dimourlé, il est important de remporter les 3 points.
Ce match aller, c'est un match à ne pas négliger, à le prendre très au sérieux, à le faire un très bon match, un très très bon match pour avoir un résultat honorable. Comme à les contrecarrer en ce moment, on va essayer d'aborder les plans. Mais on a déjà un plan et cette stratégie, on l'a mis déjà en place et on va essayer de le faire. Et si ça tombe sur leurs forces, ça va les anéantir et on va profiter de leur faiblesse pour qu'on puisse scorer et ne pas encaisser.
Mamoutou Kané Dimourlé, coach du stade malien du Bamako, au micro de notre correspondant dans la capitale malienne, Siaka Traoré.
Il n'y a plus de représentants africains au mondial féminin des moins de 20 ans.
Après la défaite du Cameroun en 8e de finale face au Brésil 3-1, l'autre représentant africain à ce stade, le Nigeria, est tombé la nuit dernière face au Japon, vainqueur 2-1. Pour rappel, en plus des Nigérians et des Camerounaises, les Marocaines et les Ghanéennes, out dès la phase de poule, étaient présentes en Colombie pour cette Coupe du monde des moins de 20 ans.
Francis Ngannou de retour bientôt en MMA.
Après une incursion dans la boxe, le Camerounais s'apprête à revenir en MMA au sein de l'organisation PFL, 2 ans et demi après son départ de l'UFC. « Je suis le même combattant », affirme Francis Ngannou. Pour son retour dans la cage, le colosse de 38 ans affronte le Brésilien Renan Ferreira pour la ceinture des loups le 19 octobre prochain à Riyad. Ngannou n'a plus combattu en MMA depuis janvier 2022. En janvier 2023, il avait quitté avec fracas l'UFC avant de rejoindre 4 mois plus tard la PFL, qui lui permet de combattre en boxe anglaise en parallèle des arts martiaux mixtes. Pour ses débuts en boxe en octobre 2023, Ngannou était passé tout près de l'exploit en envoyant Tyson Fury, champion WBC des lourds et grandissime favori au tapis au 3e round, mais s'était incliné sur une décision partagée et controversée des juges. En mars, pour sa dernière incursion sur un ring, il a été surclassé par le poids lourd Anthony Joshua, qui l'a mis KO en 2 rounds.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a dissous hier l'Assemblée nationale et fixé des élections législatives anticipées le 17 novembre prochain. Cette dissolution vise à lui donner une majorité stable pour gouverner. L'Assemblée avait rejeté début septembre un projet de dissolution de deux institutions consultatives entraînant un bras de fer entre l'exécutif et la 14e législature. Le président Faye a aussi mis en cause la gestion des finances publiques de son prédécesseur Macky Sall. Yacouba Ouedraogo, adjoint à Dakar, Papa Lyounsa, rédacteur en chef de e-radio.
Ce désaccord qu'a exprimé Bassirou Diomaye Faye lors de son adresse à la nation est autant logique que surprenant. Autant logique parce que tout le monde s'attendait à la dissolution de l'Assemblée nationale parce que le nouveau régime n'a pas une majorité qui lui permettrait de matérialiser son projet en majuscule. Surprenant d'autant plus que le président de la République a adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale, lettre pour demander à la conférence des présidents de l'Assemblée nationale que le premier ministre puisse tenir sa déclaration de politique générale le 13. Donc il y avait un consensus tacite entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, mais surprise du chef, les raisons évoquées par Bassirou Diomaye Faye pour dissoudre de l'Assemblée nationale a été un peu ce dialecte de sourd entre parlementaires.
Le président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko espèrent avoir une majorité parlementaire à la date du 17 novembre. Est-ce que c'est gagné d'avance, même s'ils ont remporté la présidentielle?
Forcément, quand on est élu à 54%, plus jeune président de la République, le président le mieux élu dans notre histoire politique, on s'attend à une majorité à l'Assemblée nationale, autrement dit 140 sur les 165. Mais l'élection présidentielle de 2024 sera différente des élections législatives. L'élection présidentielle de 2024 était un référendum. Les Sénégalais ont sanctionné, mais lourdement sanctionné, le régime de Macky Sall. Les élections législatives se tiendront dans un contexte différent et opposant parce que les jeunes commencent à partir ou recommencent à partir parce qu'ils attendent toujours les effets positifs d'un projet qui à se matérialiser. Dernier épisode tragique, le chavirement d'une pirogue en bourg avec plus de 40 morts et le bilan est évolutif. Les marchands ambulants attendent, les conducteurs de Jakarta attendent. Il y a eu beaucoup de licenciements après la circulaire du Premier ministre sur la rationalisation des dépenses publiques. Est-ce que cette bombe sociale et ces balbutiements vont se matérialiser dans les urnes? On attendra. Quelle sera la force de frappe de l'opposition? Parce qu'on aura une nouvelle recomposition politique. Amadou Ba est sorti de Benobok Yakar pour créer une nouvelle responsabilité dans la sphère politique. Quelle sera la force de frappe de Barthélémy Diaz, maire de Dakar, qui est en train de dérouler son programme Dakar Binyobok? Jusqu'à maintenant, c'est difficile d'avoir la boule de cristal.
Le président Diomaye Faye a également annoncé des audits dans les secteurs sur la gestion de l'argent public sous l'ancienne présidence. L'ancienne coalition, désormais Bonubok-Yakar, parle de chasse aux sorciers. Est-ce qu'il faut s'attendre justement à des poursuites dans les jours à venir?
Vous savez, l'histoire de la reddition des comptes au Sénégal a toujours été une histoire d'échec. De Wade à Diomaye en pensant par Macky Sall, aucun régime n'a pour le moment réussi à faire la reddition des comptes normalement.
Papa Lyounsa, rédacteur en chef de e-radio, joint à Dakar.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
Un général du corps des marines américains, du centre de commandement américain pour l'Afrique, déclare que des programmes pour la Somalie sont en cours d'élaboration, alors que le pays se prépare au retrait des troupes de l'Union africaine en décembre. Mariama Diallo, chef du bureau de la VOA à Nairobi, nous en parle. Le récit est de Rosine Monezero.
Le général Michael Langley, chef du centre de commandement américain pour l'Afrique, a déclaré qu'après avoir rencontré le président somalien Hassan Cheikh Mohamud et son plus haut responsable militaire, le général Ibrahim Cheikh Mouyadine Ado, le week-end dernier, Il est convaincu que la Somalie peut gérer sa propre sécurité après le retrait en décembre de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, connue sous le nom d'ATMIS. Les remarques du général Langley ont été faites lors d'une réunion virtuelle jeudi avec des journalistes. Il a déclaré que les autorités somaliennes lui ont dit que les opérations militaires dans le sud et le centre du pays visaient à libérer certaines zones des militants islamistes et à en stabiliser d'autres.
Les opérations se succèdent à un rythme effréné. Je me contenterai d'utiliser certains de leurs récits. Ils ont une jeune armée, c'est une armée en construction, donc il y a des succès et des revers, mais je pense que le moral des forces est en train de monter et ils sont très enthousiastes à l'idée de pouvoir contenir El-Shabaab dans les opérations futures.
Lors d'une réunion d'information au Conseil de sécurité de l'ONU en juin, Mohamed El-Amin Souef, chef de l'ATMIS, a déclaré que la menace posée par Al-Shabaab restait imprévisible, citant une récente attaque contre les forces somaliennes dans la région de Galmudug et une attaque au mortier contre le camp ATMIS à Baïdoa. Il a déclaré que le groupe djihadiste conserve une grande capacité de nuisance. Selon lui, les forces somaliennes soutenues par l'ATMIS ont réalisé des progrès significatifs dans la lutte contre Al-Shabaab. Le soutien des partenaires internationaux est essentiel pour maintenir la dynamique. Après sa visite en Somalie, le général Langley est arrivé au Kenya qui fournit des troupes à l'ATMIS où il a déclaré qu'il prévoyait de s'entretenir avec les responsables militaires kényans afin d'explorer les perspectives d'avenir sur la manière d'aider l'armée somalienne à atteindre ses objectifs opérationnels.
Ils ont été un formidable partenaire de l'armée nationale en l'institutionnalisant et en la professionnalisant, en l'aidant à opérer dans des différentes zones, en collaborant le long de la frontière pour assurer la défaite d'El-Shabaab.
En Afrique de l'Ouest, les troupes américaines se sont récemment retirées du Niger, où elles avaient reçu l'ordre de partir après la prise du pouvoir par une junte militaire. Les militaires ont aussi pris le pouvoir par la force au Mali et au Burkina Faso. Le général Langley indique que la voie à suivre pour la coopération en matière de sécurité dans le Sahel reste à déterminer. Mais il ajoute que les forces américaines resteront engagées.
Dans l'intervalle, oui, nous nous tournons dans une certaine mesure vers des pays partageant les mêmes valeurs démocratiques, les mêmes objectifs et les mêmes défis sur la côte de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes donc en pourparler avec la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Bénin.
Selon lui, ces pays sont menacés par des groupes terroristes comme Al-Qaïda au Maghreb islamique et le groupe État islamique qui opéraient initialement au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Et maintenant, ces groupes cherchent à élargir leur champ d'action vers d'autres pays de la région.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israël défend son attaque contre une école de l'ONU transformée en abri dans le centre de Gaza et affirme que les 6 travailleurs humanitaires de l'ONU parmi les 18 tués étaient membres du Hamas. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré qu'il soulèverait la question de la protection des sites humanitaires avec Israël tout en critiquant le Hamas, désigné groupe terroriste par les États-Unis, pour s'être caché dans des sites civils. Le chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, fait le point, relaté par Gabi Dorsil.
L'école Al-Jouni dans le centre de Gaza a été frappée à plusieurs reprises depuis la campagne militaire israélienne en réponse à l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre. La dernière frappe, mercredi, a tué 18 personnes. Ce Palestinien, qui n'a pas donné son nom, fouille les décombres.
C'est un sac rempli de restes humains provenant de l'attaque de l'école. Cela fait 340 jours que nous vivons l'enfer.
L'ONU affirme que 6 des victimes travaillaient pour l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, y compris le directeur du refuge. Quelques 12 000 personnes sont hébergées dans l'école. Israël a défendu la frappe, déclarant que les travailleurs humanitaires étaient en fait des membres du Hamas. David Mensah est un porte-parole du gouvernement israélien.
Quand une école n'est plus une école et devient un centre de commandement et de contrôle du Hamas utilisé par les terroristes du Hamas pour planifier et exécuter des attaques terroristes contre nos troupes et contre notre peuple ici dans l'État d'Israël, alors elle devient une cible légitime.
L'ONU ne confirme ni n'infirme l'accusation d'Israël selon laquelle les employés de l'UNRWA qui ont été tués appartenaient au Hamas. S'exprimant depuis la Pologne jeudi, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a de nouveau appelé à un cessez-le-feu et critiqué les deux parties.
We need to see humanitarian sites.
Nous avons besoin de voir les sites humanitaires protégés et c'est une question que nous continuons à soulever avec Israël. Nous continuons à voir le Hamas cacher et utiliser ces sites pour mener ses opérations.
Israël a accusé à plusieurs reprises les employés de l'UNRWA d'être liés à des groupes militants dans la bande de Gaza. Natasha Hall, chargée de recherche au Centre d'études stratégiques et internationales, jointe via Skype.
We've heard this before.
Nous avons déjà entendu cela, mais nous n'avons pas vu de preuves. Il reste à voir si les responsables américains ont également vu ces preuves.
Pendant ce temps, la Turquie a annoncé sa propre enquête sur la mort d'Aysenon Ezgi Eygi, une activiste turco-américaine qui a été tuée par les forces israéliennes la semaine dernière alors qu'elle protestait contre les colonies en Cisjordanie occupée. Écoutons le président turc Recep Tayyip Erdogan.
Nous prendrons toutes les mesures légales pour que la mort de notre Aysenor Ezgi Eygi ne reste pas impunie.
La campagne israélienne à Gaza se poursuit depuis 11 mois, malgré les pressions américaines pour que les parties parviennent à un cessez-le-feu en échange de la libération des otages détenus par le Hamas. Parmi les points d'achoppement, le contrôle du corridor de Philadelphie, une étroite bande de terre à la frontière de Gaza avec l'Égypte. Les États-Unis ont déclaré samedi qu'une proposition de cessez-le-feu plus détaillée serait faite dans les prochains jours.
La course à la présidence des États-Unis entre Kamala Harris et Donald Trump reste serrée. Madame Harris a pris une avance sur M. Trump auprès des femmes qui votent plus que les hommes. Dora Mekwa de la VOA qui montre que l'entrée tardive de Kamala Harris dans la course a creusé l'écart entre les femmes et les hommes au sein des partis politiques. Le récit est de Dili Diko.
Depuis 1984, les femmes sont plus nombreuses que les hommes à voter aux élections présidentielles américaines. Et pour la plupart, elles sont plus nombreuses à voter pour les démocrates que pour les républicains. L'entrée soudaine de la vice-présidente Kamala Harris dans la course semble avoir stimulé cette tranche d'électeurs. Erin Covey travaille pour le Cook Political Report.
Nous avons constaté un changement assez important dans de nombreuses catégories démographiques. Mais ce changement a touché plus particulièrement les femmes qui sont aujourd'hui plus susceptibles de voter pour le candidat démocrate en tête de liste qu'elles ne l'étaient lorsque c'était Joe Biden.
Cette année électorale, environ une femme sur cinq déclare que le droit à l'avortement est son principal sujet de préoccupation. Donald Trump souhaite que chaque État décide des lois relatives à l'avortement. Kamala Harris est en faveur d'une législation fédérale pour protéger la liberté de reproduction à l'échelle nationale. C'est la raison pour laquelle ces deux électrices soutiennent Kamala Harris.
Elle essaie de créer un monde où les gens ont tous le droit de prendre leurs propres décisions pour leur corps et de faire leur choix, les droits des femmes.
She's for the people.
J'aime le message selon lequel elle agit pour le peuple, c'est-à-dire pour la classe moyenne, et je suis de la classe moyenne, et les lois pour les droits des femmes.
Parmi les électrices, les derniers sondages suggèrent que Kamala Harris devance Donald Trump de 9 à 13 points. Paul Maslin est sondeur chez FM3, une société de recherche sur l'opinion publique.
Elle a conquis beaucoup de jeunes femmes indépendantes, des électeurs non partisans de moins de 50 ans, dont beaucoup ont moins de 40 ans, qui ont été enthousiasmés par sa candidature.
Écoutons ces partisans de Trump, de Géorgie et du Montana.
Tout d'abord, le fait qu'elle soit candidate, c'est vraiment, c'est un peu, c'est horrible pour moi. Parce que tout d'abord, elle n'est pas préparée à être présidente.
Tout d'un coup, Kamala Harris est la candidate du Parti démocrate alors qu'elle n'aurait jamais été désignée. Elle est sortie de nulle part.
L'écart entre les sexes persiste parmi les jeunes électeurs de la génération Z, où une majorité d'hommes de moins de 27 ans favorisent Trump, selon le sondeur David McLennan du Meredith College.
Il y a eu une augmentation en termes d'admiration de la part de certains jeunes hommes de la génération Z pour, vous savez, le swag. C'est très macho, ça en met plein la face.
Les femmes blanches ont joué un rôle clé dans la victoire de Donald Trump en 2016. Il a également obtenu une majorité de votes de femmes blanches en 2020. Dans cette course, les derniers sondages montrent que Harris et Trump sont statistiquement à égalité parmi les femmes blanches.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.